Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Un nouveau Clap Cinéma avec Jean-Sylvain. Bonjour Jean-Sylvain.
Bonjour Sylviane.
Vous êtes remis de ces Romains et de ces barbares?
Je n'ai pas eu à m'en remettre parce que je ne les ai pas côtoyés.
Ah, mais on les voyait dans la rue, même sans vouloir les voir. Ils ont eu du beau temps. Nous, aujourd'hui, il pleut pour présenter tout le mois de mai, qui est bien sûr le mois du Festival de Cannes. Et vous y allez cette année,
oui.
Pour des raisons professionnelles.
Oui.
Alors racontez-nous ce que vous allez faire à Cannes.
c'est le rendez-vous annuel un peu de tout le cinéma français. Alors c'est le rendez-vous au niveau des mondanités et tout ça que je fuis bien évidemment.
Vous n'avez pas de smoking.
Voilà, c'est les journées, il y a avant le début du Festival de Cannes, il y a les journées professionnelles, donc qui sont le dimanche, lundi, mardi. Donc on y va, on se retrouve tous un petit peu le milieu du cinéma à réessayer, les distributeurs, les collègues des autres salles. Et ça permet d'abord de faire un peu le point, de parler avec les gens, les différentes expériences que les uns et les autres ont mis en place sur l'année écoulée, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les prévisions, parce qu'on n'est jamais... quand on reste trop seul dans son coin, au bout d'un moment, les idées sont moindres, moins pertinentes. Donc voilà, donc on a besoin d'aller chercher aussi avec les autres dans la discussion des informations complémentaires
et bonnes idées. Vous avez toujours un peu les mêmes difficultés.
Ouais. Et puis on voit aussi beaucoup de films.
Beaucoup de films, combien? 4, 5 par jour?
Voilà, je vois sur 2 jours et demi, je vois une dizaine de films, donc c'est assez bien. Et puis ça permet aussi de voir qu'il y a des choses qui se passent à Nîmes, par exemple la chute de la fréquentation le soir sur les grandes villes universitaires comme Montpellier ou Strasbourg ou Lille. Ils se posent la même question avec la séance de 22h par exemple. Ils ont encore des séances de 22h et ils se demandent si les jeunes ne sortent plus comme avant. Donc voilà,
ça permet de... C'est l'insécurité ou c'est le fait des plateformes?
C'est comme tout, il n'y a jamais une seule raison unique. Il y a plein de choses. Il y a les plateformes, il y a les modes de regarder des films aussi en payant à la demande. On rentre chez soi à 17h12, on peut commander un film pour 18h30. Et voilà, c'est une liberté aussi qui existe.
Oui, mais c'est assez rassurant pour vous, professionnels, de se dire, bon, c'est pas local, c'est vraiment un fait de société.
Ouais, c'est
ça qui est important.
Ça change pas le résultat qu'on court après les spectateurs le soir, mais ça, au moins, donc après, on se dit, ben moi, je fais des ciné-clubs, je fais des rencontres, je fais telle bonne idée, et d'autres qui vont nous dire, ben moi, j'ai essayé pendant, je sais pas... de faire des entrées à tarif réduit le soir, ça fonctionne bien. Voilà, il peut y avoir des idées comme ça qui se croisent.
Ou fermer carrément le soir, mais enfin, ça fait un manque à gagner tout de même important.
Non, parce que si on ferme le cinéma le soir, ça veut dire que la cafétéria est fermée. Et puis le cinéma, c'est pour le soir.
Bien sûr.
Si on commence à n'être ouvert que pour les bonnes séances, les jours de week-end quand il pleut, ou de jours fériés, comme mercredi dernier,
Il y a la feria qui s'annonce aussi. Ouais. Donc, comme d'habitude, vous fermez du... vendredi ou lundi.
Cette année, on fait un test, on reste ouvert le jeudi soir. Avant, on fermait le jeudi soir, là, on va être ouvert le jeudi soir, le soir de la Pégoulade. Ouais. Même si l'accès au sémaphore est difficile, on se dit qu'il n'y a pas forcément que des gens qui font la feria, qui sont à Nîmes. Donc voilà.
Peut-être en profiter. Et sinon, donc, c'est fermé pendant tout le week-end de Pentecôte, qui est donc la feria. Donc on va parler de Cannes, l'ouverture de Cannes, c'est le film Le Deuxième Acte.
C'est le film Le Deuxième Acte, un film français, c'est devenu une tradition maintenant. Le film qui fait l'ouverture du Festival de Cannes sort en salle le soir même, à savoir là le 14 mai. Et projeté après dans la continuité bien évidemment. Alors Le Deuxième Acte, c'est le premier film annuel de Quentin Dupieux, puisque comme il en fait deux par an, voilà, avec un casting phénoménal.
Qui marche sur son succès, voilà, hein, qui voilà. est en grande partie lié aussi à Raphaël Quenard. Voilà, c'est Raphaël vrai qu'on Quenard, les associe voilà, maintenant tous voilà, les
Raphaël
deux.
Raphaël Quenard qui est à l'affiche de celui-ci, avec Louis Garrel, Vincent Lindon, Léa Seydoux. Mmh. Alors, le secret le plus intime et le plus gardé et construit savamment, orchestré autour du film avec juste des petites fuites pour que tout le monde en parle, tout le monde se précipite, j'ai une info, voilà, donc c'est ça va être
bon, l'affiche est assez rigolote, hein, ils ont leur tête voilà. Sur des assiettes comme Saint-Jean-Baptiste.
Voilà, et la bande-annonce que vous pouvez voir n'est pas du tout celle du film, c'est une bande-annonce fictive. Voilà.
Ah, donc, d'accord.
Tout ça est entouré d'un mystère. Je pense qu'on peut faire confiance à Quentin Dupieux pour être dans la même lignée de films rigolards et rigolos.
Oui.
Donc voilà, donc le film sort le 14 mai.
Bah, écoutez, 14 mai, pardon. Même si on sait que c'est une bande fictive, on va l'écouter pour compléter donc le mystère.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerai trop.
Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein.
Si je puis me permettre, Guillaume. L'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons.
N'importe quoi. Non, mais écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons.
Non, mais sans déconner, fermez vos gueules un peu, là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout.
Donc, bien sûr, les films de Cannes, personne ne les a vus. Donc, ça fait partie du mystère. Moi, j'aimerais parler tout un peu de l'ambiance qui est autour de Cannes. Parce qu'avec toutes ces dénonciations de réalisateurs qui ont abusé de leur pouvoir, il y a une certaine crainte. Hein. Bon, pour vous, ça n'entre pas dans vos journées professionnelles, mais ils ont peut-être peur de moins de fréquentation, de scandales. Mais vous n'allez pas dans ces grandes.
Je sais pas. Enfin, là. Là, il y a deux problèmes. Un salopard est un salopard, qu'il soit cinéaste, homme de théâtre, pompiste ou agent de maîtrise. Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'il y a eu pendant des années une omerta et des silences, et que le cinéma et la culture en général, dans la mesure où ça touche le public, a un rôle à jouer encore plus prioritaire. Et dans la mesure où on a un rôle à jouer, il faut être encore plus exigeant et intransigeant par rapport aux gens qui profitent de ce système-là pour abuser des jeunes garçons et des jeunes filles.
Et donc, qui ne reconnaissent pas leurs torts, hein, qui trouvent toujours des bons faux fuyants.
Tolérance zéro. Par exemple, quand j'ai des demandes de partenariat sur un certain nombre de films pour préparer des saisons, des choses comme ça, voilà, quand il y a Depardieu, je dis non. Quand il y a des gens qui sont mis en cause, ils ont bien évidemment le droit à la présomption d'innocence, mais ça regarde la justice. Après, je pense qu'on a trop regardé nos pieds en disant, bon, on verra, ça passera encore cette fois-ci. Il faut effectivement que tout le monde se remette en question. Et quand les films ne seront plus diffusés, ça va aussi peut-être faire réfléchir un certain nombre de gens.
Est-ce que les plus jeunes réalisateurs, justement, ont changé? Il faut l'espérer tout de même, et tout au moins les actrices ont changé. C'est-à-dire, il n'a pu y avoir ce même pouvoir de domination, parce que en fait c'est un problème de pouvoir, c'est un problème de domination.
Alors je ne sais pas si les choses ont changé. Je pense que un dominant aura toujours envie de dominer, mais par contre il faut mettre des barrières, c'est-à-dire que maintenant on ne tourne plus une scène avec un enfant ou une jeune fille ou un jeune garçon seul, sans la relation.
Je ne sais plus comment ils appellent ça, une assistante d'intimité.
Voilà, ça c'est fini, donc c'est vrai qu'il y a des protocoles qui se mettent en place, et c'est tant mieux pour que voilà, parce que pour une Judith Godrèche qui a le cran, la qualité, le panache de remettre tout ça en question et qui libère la parole, combien de gens et de jeunes femmes et de jeunes garçons n'ont pas encore osé prendre la parole et sont minés à vie pour ce genre de choses. Donc il faut effectivement...
Quand on voit des grandes vedettes, enfin là, il y a la polémique sur Juliette Binoche qui commence à dire que oui, elle a vécu la même chose alors qu'elle s'est tue pendant des mois.
Oui, mais elle,
c'est très problématique.
Elle libère sa parole, toute Juliette Binoche qu'elle est. Rappelez-vous, il y a quelques années, notre phénoménale Catherine Deneuve, qui disait qu'il fallait faire attention quand on parlait de Depardieu, que Absolument. Notre ami Philippe Torreton, qui a mis en cause Depardieu il y a quelques années,
est blacklisté
du cinéma français. Donc il y a des choses, ça, il faut que ça bouge, parce que c'est pas...
D'accord. Donc on va voir à Cannes comment ça se passe, et c'est peut-être une édition qui, justement, va confirmer des mouvements depuis plusieurs années. Alors avant de parler des autres films de Cannes, on va peut-être revenir sur deux séances de rattrapage. Ça a beaucoup de succès. J'étais très étonnée. Moi, je suis venue à Une Vie dimanche dernier, à 11h du matin le dimanche. La salle était pleine, marche bien, ces séances de rattrapage. Alors, Sidonie au Japon, c'est le samedi 11 mai à 15h15. C'est avec Isabelle Huppert.
Isabelle Huppert qui découvre le Japon et qui se méprend entre son agent littéraire, parce qu'elle est écrivaine, et voilà. Et donc ça, c'est un joli film poétique des cultures et tout ça. Donc et puis Isabelle Huppert, elle est quand même
une excellente actrice
remarquable.
Et alors, on n'en a jamais parlé, justement, dans les... Enfin bon, revenons, stoppons, mais elle n'a jamais parlé, justement, d'abus, donc bon. Et puis l'autre séance de rattrapage, c'est L'homme aux mille visages, le dimanche 2 juin à 18h. Ouais.
Alors ça, c'est des films, on ne sait pas d'où ils arrivent.
Ouais.
Et
ils ont du succès.
Et on ne comprend pas trop... Et ça, c'est vachement bien, parce que c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier. C'est que les gens disent... je crois qu'il y a très longtemps qu'il y a plein de gens qui sortaient à la séance, qui me disent « Mais j'ai vu que vous arrêtiez déjà L'homme aux mille visages. C'est formidable, il faut absolument le continuer. » Donc
on écoute
un peu. On avait fait pareil l'année dernière avec le théorème de Marguerite qui était passé l'été, qu'on avait beaucoup repassé.
Donc, il y a la salle des profs aussi, qu'on vous demandait beaucoup. Voilà. Donc c'est bien d'écouter aussi les spectateurs.
La salle des profs, qui d'ailleurs, je saute sur l'occasion, le film a eu le prix luxe du cinéma européen, aidé par la communauté européenne. Et on a une projection le mardi 4 juin à 18h. Sur inscription, c'est l'Europe qui va payer la place, et la séance sera présentée par la Maison de l'Europe, et il y aura un apéro après la séance.
C'est le 4 juin à quelle heure?
Le mardi 4 juin à 17h.
Donc 17h, c'est noté, parce que j'ai raté la dernière séance de rattrapage.
Donc voilà. Normalement il fera beau, on pourra boire un coup derrière.
Très bien, sinon on le boira à l'intérieur. Alors les films, toujours avant de parler de Cannes, je vois des films qui restent jusqu'au 4 juin, puisque ça c'est le programme de mai. Il reste encore Demain, qui continue sa belle
carrière.
On parlait des
problèmes de fréquentation. Par exemple, je prends l'exemple de Mercredi où il a plu, mercredi 1er mai. Eh ben, on a refusé du monde pour Il reste encore demain. Donc voilà, comme quoi, les gens savent que...
Il reste une part de mystère.
On garde des films comme ça longtemps à l'affiche, Il reste encore demain. Los Delincuentes aussi, ce fameux très long film.
3h10, ça me rebute un petit peu.
Mais magnifique film qui est à l'affiche une fois par semaine. Il y a le tableau volé qui fonctionne aussi extrêmement bien, qui est sorti avec La formidable Léa Drucker, qui est sorti mercredi dernier. Jusqu'à fin mai, il y a Le mal n'existe pas, qu'on avait mis en avant sur le précédent programme. Ça, c'est un film japonais absolument magnifique. Voilà, donc il y a plein de petits titres. Jusqu'au bout du monde, que j'ai pas encore vu.
Alors,
un western avec deux et avec Viggo Mortensen.
Et puis, je ne sais plus son nom, Vicky Renz, Cripps. Alors moi, je l'ai vu... Je m'attendais en femme qui revendique sa liberté. C'est une femme très libre. Et en fait, elle arrive au bout du monde. Son compagnon repart à la guerre comme ça. Et elle accepte. Alors ça m'a... Ça m'a tourneboulé, comme on dit, en disant comment elle accepte une telle...
Parce qu'elle est encore plus amoureuse que les autres fois, peut-être, je sais
enfin,
pas.
Si vous voyez la petite maison au fin fond, vous vous dites « Waouh !» Mais bon, elle joue très très bien, Viggo Mortensen aussi, la fin est très belle. Donc c'est à voir, mais j'ose dire que moi, il m'a un peu... Il m'a pas subjuguée, disons.
Bon. Très bien.
Alors, on va écouter la bande-annonce du deuxième film français qui est à Cannes, Marcello Mio, de Christophe Honoré. Et on va écouter la bande-annonce avant.
C'est incroyable. Qui t'a fait ça? C'est pour des photos?
J'ai encore rêvé de mon père cette nuit.
Oui. Je n'ai plus pu
me réveiller. C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père.
Il te manque, c'est tout. Sans moi, le
monde peut bien tourner. Mais Kira, tu peux m'expliquer ce que ça t'apporte de faire ça?
Ben, ça me rend heureuse.
Dis-toi qu'elle est comme une somnambule et... Faut pas la réveiller brusquement.
Bonjour Nicole.
Vous connaissez Marcello?
C'est quoi ces conneries, Kira?
Marcello. Nicole, c'est Marcello, attention.
On a été heureux ici?
Immagina la locandina. Marcello Mastroianni e Fabrice Lucchini nel nuovo film di Nicole Garcia.
Arrête, et puis enlève ça.
Will you be back from Rome soon?
Ça te rappelle rien? J'ai déjà joué cette histoire au cinéma, Marcello.
Lei non è Marcello. Ci dica la verità. Vogliamo la verità, no?
J'étais tellement heureux de t'avoir rencontré, tellement fier.
On est d'accord que Marcello n'est pas Marcello.
Mais alors chérie, qui te dit que Lucchini c'est Lucchini?
Alors sur Radio Alliance Plus, nous continuons avec Jean-Sylvain au Sémaphore, ce survol en fait du mois de mai où il y a beaucoup de choses, marquées bien sûr par le Festival de Cannes, mais pas que. Alors Marcello Mio, on attend.
Marcello Mio, on attend le plus beau casting de l'histoire du cinéma français depuis pas mal de temps.
Oui, vous l'avez dit plusieurs fois ça.
Carré Mastroianni, Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini, Nicole Garcia, Benjamin Biolay,
ouais,
Melville Poupeau, c'est pas mal quand même. Bon, c'est un film centré sur la personnalité et le personnage de Chiara Mastroianni, donc ses relations, bien évidemment, quand on a une mère qui s'appelle Catherine Deneuve et un père qui s'appelle Marcello Mastroianni et un compagnon qui s'appelle Guillaume Benjamin Biolay. Voilà, ça fait du monde. Tout ça est mis en scène par Christophe Honoré. Je ne sais pas du tout quelle forme ça aura, parce que j'ai pas vu le film.
Il y a l'affiche qui est tout de même très attirante.
Voilà,
l'affiche de
la Dolce Vita, elle est souvent sur les quelques rares photos, elle est habillée avec le même chapeau que son père, elle a les mêmes lunettes à écailles noires, voilà. Donc,
mais là, elle est toute habillée en costume masculin dans la fontaine.
J'ai bien envie de faire largement confiance à Chiara Mastroianni, qui est une actrice phénoménale.
Ouais. Donc très, je dirais discrète, mais en même temps très très intelligente. C'est peut-être parce qu'elle est intelligente qu'elle est discrète, je ne sais pas. Mais voilà. Alors, nous continuons. On en reparlera dans la prochaine émission, un peu de ce que vous avez vu à Cannes. Là, on continue peut-être avec le ciné-club de La Contemporaine. Il ne faut pas oublier que La Contemporaine, elle dure jusqu'au 22 juin.
Oui, La Contemporaine, donc ça...
Il y a Promesse qui fait partie.
Voilà, La Promesse fait partie de la sélection. Et il y a ce ciné-club qu'on monte avec eux sur le thème de la jeunesse, puisque c'est la thématique de La Contemporaine. Avec vendredi 10 mai à 20h30, séance de Virgin Suicide de Sofia Coppola.
Parce que ça m'avait brûlé ce film.
Ça, c'était donc magnifique film. Et le 24 mai, Crazy de Jean-Marc Vallée, le film qui a dévoilé Marc-André Grondin au grand public. Les ados qui écoutaient David Bowie, Lou Reed et les Stones dans les années 80 en imitant et en se maquillant comme eux sauront de quoi on parle. Voilà. C'est un film absolument magnifique, magistral.
Oui, parce que vous parliez des problèmes au début qui sont les mêmes problèmes partout. Comment faire venir des adolescents au cinéma, quoi, à part dans les grands...
Il y a des moyens. La semaine dernière, juste avant les vacances, on a fait un ciné-club avec le lycée d'Odé. C'est eux qui avaient choisi leur film. Je leur ai Licorice Pizza et on leur a repassé. Et il y avait une soixantaine de personnes, donc c'était bien, quoi.
Alors, vous parliez d'David Bowie. Je vois qu'il y a le film sur Eric Clapton.
Quelle transition, ouais, Sylviane.
Je n'ai pas préparé celle-là, mais elle est bien.
Ouais. On a été contacté par le producteur du documentaire sur Eric Clapton qu'on avait passé il y a quelques années. Ça fait peut-être 4-5 ans, je ne me rappelle plus bien. C'est de 2017. Oui, on l'avait passé pour le Festival du cinéma britannique. Mm-hmm. Et Eric Clapton avait quand même accepté d'abord donner ses archives personnelles et puis accepter de se remettre en question quand même étonnamment, ouais, par rapport à sa dépendance pendant de nombreuses années à l'alcool et aux autres substances. Et si vous n'avez pas vu ce film et que vous aimez Eric Clapton et que vous n'avez pas les moyens de vous payer une place dans les arènes, c'est un bon moyen pour voir embrasser la carrière d'Eric Clapton, qui est quand même un guitariste formidable.
Oui,
moi, j'avoue que je préfère largement la première partie de sa carrière. Mmh. Que quand il faisait des solos dans des stades entiers mal sonorisés avec des concerts qui duraient 35 minutes parce qu'il était trop saoul pour continuer à jouer. Donc voilà, donc j'espère qu'il est...
Maintenant, il est devenu adulte, raisonnable.
Voilà. Donc il y a deux séances, le jeudi 30 mai à 20h30 et le samedi 1er juin à 16h. Oui. Le concert étant le vendredi 31 au soir, donc ceux qui sont là avant et après peuvent éventuellement venir voir ce merveilleux documentaire.
Bien sûr. Donc, je regarde le programme. De quoi allons-nous parler aussi ?
Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit comme ça, des films qu'il y a, un petit passage en revue, des films que j'ai envie de voir, des choses, parce que j'ai quand même, même si je ne vois pas tout... Alors, j'ai une idée. Le 8 mai sort un film français qui s'appelle « Un homme en fuite ». Et il y a l'énorme Léa Drucker dedans. Donc, je pense que ça doit être un film
Drucker,
à voir.
Pour Léa Drucker, vous êtes de toute façon pour.
Je vote. Sky Dome 2123.
J'ai vu la bande-annonce, ça m'a interpellé.
Voilà, qui est un film d'animation pour adultes, d'anticipation. C'est, l'année dernière, on avait Mars Express qui était sorti. Voilà, on est dans la même idée de science-fiction. Sauf que là, ça nous vient quand même de Slovaquie et de Hongrie. Mmh. Donc, la France et les États-Unis n'ont pas le monopole et le Japon n'ont pas le monopole du film d'animation.
Ah,
un
bien.
Film israélien qui fait un écho au malheureux conflit qui secoue ce coin-là de la planète.
Le
déserteur, l'histoire de la parano de l'armée israélienne. Qui est persuadé que ce jeune de 18 ans s'est fait enlever par le camp d'en face alors qu'il a simplement déserté pour aller voir sa copine.
Et ça, c'est un sujet tabou. Hein. Voilà. Il n'y a pas de désertion dans l'armée israélienne.
Mais il y en a comme partout.
Et il y a de plus en plus d'opposants justement à cette guerre en Israël. Donc, ça suit l'actualité.
C'est le hasard du calendrier. Ça, c'est pas... Voilà. après, il y a un documentaire dont j'ai vu... un film dont j'ai vu les 25 premières minutes qui a l'air complètement... un ovni. C'est un film qui s'appelle Bushman, un film de 1971 qui n'est jamais sorti et qui parle d'un noir qui vient du Nigeria dans les États-Unis tout de suite après la mort de Martin Luther King. Voilà, donc on se replonge dans ces années 70 au cinéma. Le film a une plastique absolument phénoménale. Ces images carrées, vous savez, comme avant, ce qu'on appelle le standard américain dans notre jargon cinématographique.
En noir et blanc.
Voilà, donc une petite perle, la presse s'en est fait écho ces dernières semaines. Marcello Milo, on en a parlé. La Belle de Gaza qui est présentée au Festival de Cannes aussi dans les sélections parallèles parce que ça commence à sortir. Donc qui sort le 29 mai, c'est de l'immense documentariste Yolande Zuberman, l'histoire de prostituées qui font le trajet entre Israël et Gaza. Vous voyez, malheureusement, il y a de la vie. Il y a deux films japonais qui sortent aussi quasiment coup sur coup. C'est Green House et Comme elle l'indique. Donc, pour les fans de cinéma japonais, notre collaboration avec la structure Art House qui nous apporte beaucoup de films japonais, au moins une dizaine par an, continue. Pour terminer,
vous allez passer votre vie au sémaphore. Hein,
deux mots sur Memory que j'ai très envie de voir. C'est le film de Michel Franco. Il y a un énorme casting avec Jessica Chastain et Peter Sangar, qui a eu le prix d'interprétation à Venise l'année dernière, enfin 2023. Et enfin, pour terminer, un film que j'ai vu, ça s'appelle Fainéante de Karim Dridi, et c'est l'histoire de deux copines qui ont un vieux bus Volkswagen et qui n'ont aucune envie de travailler si ce n'est de faire la fête. Donc elles vont de zone en zone, de squat en squat, et ça dit quand même des choses entre deux bières et concerts de punk assez rigolotes. Donc c'est
bon, ben voilà, je pense que le mois de mai va être bien occupé.
Il faut qu'il continue à pleuvoir sur les week-ends du mois de mai, bien sûr.
Et puis ne pas oublier bien sûr Bon, je suis venue dimanche, il y avait plein de petits aussi, les petits du CEMAF. Hein.
Oui, puis après, il y a nos séances qui continuent. Le Cinélus de Daniel avec No de Pablo Larine, ça, on peut le signaler rapidement, c'est le 13 mai à 18h. Le Hors Zone avec l'Enfer des Armes, le Two Yark. Il y a le programme, il y a plein de choses.
Prenez votre programme, et puis je vois que maintenant, le sémaphore est très actif sur les réseaux sociaux, donc on a même plus besoin du beau programme.
C'est votre jeunesse qui fait ça.
Merci à eux, merci à vous, merci au Sénafo, et bonne séance à tous.